بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخان الإسلام، نو كومبليتون إن شاء الله ce soir le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما، dans lequel nous avons vu en deux ou trois séances les bases de la tarbiyah islamiyah, de l'éducation islamique et principalement de l'éducation spirituelle de l'enfant. Quelles sont les notions qu'un père ou d'une manière générale un tuteur doit inculquer à l'enfant depuis qu'il est petit pour qu'il puisse construire sa relation avec Allah Azza wa Jal. Et on avait vu que Ibn Abbas radiallahu anhuma avait reçu ces conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ghulam yahfazillah yahfazuk. On avait expliqué, protège la religion d'Allah, c'est-à-dire pratique la religion d'Allah, mets en application les ordres de ton Seigneur, éloigne-toi de ce qu'il a rendu haram, apprends ta religion pour mieux la pratiquer, prêche, propage la religion. De cette façon, ta relation avec le din Allah sera complète. Ta relation avec la religion d'Allah Azza wa Jal sera complète. Et de cette façon, quel sera le, entre guillemets, le retour? Quelle sera la récompense de ce monde et dans l'au-delà? Dans l'au-delà, on ne doute point, mais également dans ce monde, yahfazuka. Allah te protège. C'est-à-dire, Allah yahfazuka min kulli su. Allah te protège contre toute chose qui est mauvaise, tout ce qui peut être néfaste, tout ce qui effraie les gens. Tout ce dont nous avons besoin de demander isti'adha, protection, Allah Rabbul Izzah nous protège. Et cela rejoint le verset Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Ô vous qui avez la foi, si vous aidez le dîn d'Allah. Ça veut dire quoi aider le dîn d'Allah? C'est la même définition que ihfadillaha. Et en commentaire, les savants, les muhaddithines d'un côté, les mufassirines de l'autre, disent, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin d'êtres humains comme vous et moi pour protéger, pour aider sa religion? Aucunement. La wallah. Allah n'a aucunement besoin des créatures pour protéger, aider, propager sa religion. Si Allah voulait faire souffler le vent de la hidayah sur le monde entier, en une fraction de seconde, le monde entier avec ses 7 milliards d'habitants dirait, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah est-il capable, oui ou non? Bala, sans le moindre doute. Comme Allah Rabbul Izzah, à la fin des temps, est capable, wa huwa ala kulli shay'in qadir, d'envoyer une brise douce qui passe sous les aisselles de chaque croyant, chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur à la fin des temps, cette brise qui va passer donc sous les aisselles de chaque croyant va reprendre le ruh, l'âme de chaque personne, et toute personne qui a de son cœur ne serait-ce qu'une petite quantité de la ilaha illallah, une présence d'amour pour Allah de son cœur de tawhid, ces personnes-là vont quitter ce dunya en une fraction de seconde. Allah est capable d'agir de cette façon. Donc Allah est capable d'envoyer le vent de la hidayah sur le monde entier en instant, en quelques secondes. Mais notre Seigneur a décidé, sunnatullah, que les choses se passent de cette façon. Il y a établir la propagation, il y a usloub ad-da'wa, la façon de propager, la façon de s'adresser aux gens. Il y a ce qu'on appelle usus ad-da'wa, les bases de la da'wa. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Al-tawhid, les arcanes de l'islam, les piliers de la religion, les a'mal, la pratique, le akhlaq, le mu'amala, et la ghayri dhalik. Et ensuite, la hidayah, en finalité, est dans les mains d'Allah. Allah peut donner la guider la hidayah, Allah peut ne pas donner la hidayah. Et c'est de cette façon qu'Allah Rabbul Izzah a agi avec tous les aqwam, tous les peuples, toutes les populations, tous les peuples qui sont venus avant nous. Et il en est de même pour notre ummah, la ummah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce petit plus par rapport aux autres communautés, qui fait de nous khaira ummah. Pourquoi? Parce que ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. On ordonne le bien, on prêche le bien et on interdit le mal. Un travail de da'wah, qui est un travail prophétique, repose sur les épaules de chaque personne de cette umma dans le prophète alayhi salatu wassalam lors du pèlerinage d'adieu. Répétez, demandez aux musulmans, vous attestez que j'ai propagé, est-ce que vous attestez? Le sahaba en cœur disait, Wallahi, nous jurons par Allah, annaka qad ballaghta, que tu nous as tout enseigné, que tu as propagé, que tu as accompli ta mission. Et les savants disent que à travers ces paroles, ces échanges, il y avait le amana, le dépôt qui devenait maintenant obligatoire sur chaque croyant qui était présent lorsque le prophète dit que chaque personne falyuballigh ash-shahid al-ra'ib, que la personne qui est présente, il transmet à la personne qui est absente. C'est-à-dire quand vous allez retourner dans vos pays, dans votre village, propagez, enseignez tout ce que vous avez entendu dans ces khutbah de Hajjatul Wada', c'est donc la responsabilité de chaque croyant. Plus une personne va le faire, pratique, apprendre sa religion, mieux pratiquer, se renforcer spirituellement, se renforcer par les biais des a'mal, et que tu sois profitable pour les autres, tu donnes ce khair, tu donnes le ilm, tu donnes la connaissance aux gens, de cette plus on va le faire, plus on sera parmi les gens qui aident le dîn d'Allah, in tansurullaha, ihfadillaha, et on aura en retour yahfaduka, on aura en retour yansurkum, Allah nous envoie, va nous envoyer son aide, on va bénéficier de la nusra, de l'aide d'Allah Azza wa Jal, et de la protection contre toute mauvaise chose. Ensuite, la deuxième phrase qu'on avait expliquée, ihfadillaha tajidhu tujahak, pareil, protège le dîn d'Allah, même définition, tu trouveras Allah, tu trouveras ton Seigneur toujours avec toi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle décision que tu vas prendre dans ta vie, quelle que soit l'orientation que tu vas prendre, Inch'Allah, tu seras bien guidé et tu seras protégé par Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un dua que nous demandons yaoumiyan, régulièrement. On pourrait résumer tout ça dans le Fatiha. Ba'ihdina s-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. Et nous avons, Wallahi al-Azim, grandement besoin de la guider, de la hidayah, de la part d'Allah Azza wa Jal. Si nous n'avons pas la guidée de notre Seigneur, si on doit se baser uniquement sur notre bonne intention, notre intelligence, nos choix, Wallahi, on ne fait pas un pas. Personne n'est capable de se prosterner une fois, parce que si Allah devait donner la possibilité uniquement aux pieux de faire son adoration, ben, vu nos péchés, vu nos manquements, vu la faiblesse de nos a'mal, personne n'aurait eu tawfiq de faire une prosternation pour Allah Azza wa Jal. Mais c'est vraiment qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah aime ses serviteurs, ses makhlouqat, et qu'Allah décide de nous accorder la hidayah, la guider, et guider que nous demandons régulièrement en disant « Ihdina, guide-nous, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. » Donc, « Ihfadillah tajidhu tujahak » dans tes choix, tu seras toujours guidé, protégé par Allah Azza wa Jal. Ça peut être les choix dunyawi et dini, les choix concernant ma famille, concernant mon travail, concernant tout ce que j'ai besoin de prendre comme décision dans ma vie, je serai toujours bien guidé par Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, mes choix concernant mon akhira, concernant ma spiritualité, Allah nous guidera toujours vers le droit chemin et Allah fermera les portes du mal, les portes des waswasa de shaitan, les portes du nafs. Il y a tous ces facteurs qui nous poussent vers le mal, alhamdoulilah, nous en serons protégés. Et quand Allah décide de protéger une personne, mashallah, si spirituellement nous avons la protection de notre Seigneur, alhamdulillah, nous sommes tranquilles, nous pouvons avancer dans le droit chemin. La condition c'est quoi? Protéger, travailler le dîn d'Allah, apprendre, pratiquer, s'éloigner du haram et donner ce bien aux autres. Nous ferons partie des gens qui seront parmi les gens qui aident le dîn d'Allah et nous allons donc bénéficier de la nusrat d'Allah Azza wa Jal. Cet enseignement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le donne à un enfant, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, afin qu'il grandisse avec ses valeurs. Que c'est ça, ô mon fils, c'est ça le plus important. En aucun cas le prophète alayhi salatu wassalam n'a parlé du dunya, du travail, le fait de faire des efforts pour obtenir ton risque. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, dès les premières phrases qu'il va dire à cet enfant, c'est pratique la religion. Accomplis les bonnes actions, ne fais pas de péché, apprends ton dîn, renforce-toi et tu auras l'aide d'Allah. Pour que l'enfant comprenne que c'est la priorité des priorités. Il n'y a rien au-dessus de ça. Il n'y a rien de plus important, c'est pour cela que j'ai été créé, et ça rejoint ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun, qu'Allah nous a créé uniquement pour faire son ibada, pour faire son adoration. Donc des paroles essentielles que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à cet enfant. Hada. Également, Je ne sais pas si c'était ici ou alors dans un code tafsir, si je retrouve, il y avait une parole magnifique d'un mufassir, rahimahullah. Peut-être qu'on l'avait dit ici, concernant les péchés, il explique comment est-ce que, vous savez, pour avancer dans le dîn, on a besoin des deux choses. Ça, on le répète tout le temps. On a besoin de faire de bonnes actions, mais on a besoin également de s'éloigner, de rester éloigné des péchés. L'un ne marche pas sans l'autre. Et si quelqu'un il fait plein de bonnes choses, mais en même temps, arrivé chez lui, il fait des péchés, dans ses relations avec ses parents, il fait des péchés, dans ses relations avec sa femme, il est injuste, dans ses relations avec son voisin, il arrête, il cumule les péchés, même si de l'autre côté, il cumule les bonnes actions, cette personne ne va pas avancer. C'est un travail des deux côtés à faire, l'accomplissement de bonnes œuvres et rester éloigné des péchés. Et donc, ce Mufassir, il explique la gravité des péchés. Bien sûr, sur le plan spirituel, les points noirs sur les cœurs, tout ça on connaît. Mais il dit qu'également, il avait cité un verset, je ne retrouve pas, c'est dans un autre kitab certainement, il dit que lorsque l'homme accomplit des péchés, cela va même altérer son jugement. Quand on a une décision importante à prendre et que nous sommes dans une mauvaise phase, ça arrive ça, non? Ça arrive, oui ou non? Il y a des fois, mashallah, tout va bien. Je pense spirituellement, hein. On est le fajr à l'heure, on fait tahajjud, prière de la nuit, on arrive à jeûner le lundi, le jeudi, on contrôle notre regard, mashallah, avec une grande aisance, une grande facilité, on ne fait pas de ribat, on ne parle pas sur les gens. Quand on entend des personnes en train de faire ribat, critiquer une personne, on s'en éloigne. Alhamdulillah, il y a des fois où, mashallah, on est presque content, il y a un roulement. Alhamdulillah, spirituellement, on est en forme. Mais il y a des fois où on n'est pas bien. Il y a des fois où on a du mal à se réveiller Fajr. Il y a des fois où on n'a pas de tawfir de jeûner. Il y a des fois où on traîne un petit peu les pieds pour venir à la masjid. On sent que ça ne va pas. Mauvaise phase. Ben, quand on est dans cette spirale de péché, cela va même causer préjudice à notre jugement. Quand on a une décision importante à prendre dans notre vie, ben, assurément, les phases, les périodes où on est dans les péchés, notre décision ne sera pas bonne. Alors que quand on est dans l'obéissance d'Allah, de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, les mashwara, les décisions, les concertations vont aboutir sur le khair, vers quelque chose de très positif. Si, Inch'Allah, la prochaine fois on retrouve le verset, je ne me trompe pas, c'est dans un livre de tafsir, magnifique développement de ce mot facile qui explique comment est-ce que les péchés, non seulement ça nous atteint spirituellement, mais même dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui nous est nuisible, parce que péché est synonyme de volumat, d'obscurité. Bonne action est synonyme de nour, de lumière, de tawfiq, de rida Allah, de contentement d'Allah, de présence de malaïka. Dans une maison, il y a les péchés, dans une maison, les anges ne viennent pas. Dans une maison, il y a du haram en permanence. Comment voulez-vous que les anges viennent? Comment voulez-vous que la baraka s'installe? Donc, tout ce qui est bonne action apporte du bonheur, bi'idhnillah, et tout ce qui est péché éloigne la baraka et apporte l'obscurité. Nasallallaha al-afiya. Ensuite, on avait expliqué idha sa'alta fas'alillah. On s'était arrêté à là la dernière fois. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as besoin de quelque chose, is'alillah, demande Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une phrase magnifique. Vous savez qu'un enfant, ses yeux sont remplis de rêves. L'enfant veut. Il aimerait avoir telle chose, telle chose. Demandez à un enfant de 6 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui. Mashallah, il vous fait un discours d'une heure 30. Il va vous citer tout ce qui existe, comme jouets, comme consoles, comme... et ainsi de suite. Hein, tout ce qui est... Mashallah, tout ce qui fait rêver les enfants, je ne peux pas vous dire d'un sens. Il va vous dire tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il aimerait avoir. Si vous êtes par malheur, vous dites, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais que le Père Noël te donne? Ah là, c'est parti, il ouvre un chapitre. Ça, il faut pas les orienter vers ce genre de tamanna. Les enfants, ils ont besoin de plein de choses. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, déjà, il recadre les désirs de cet enfant. Il dit que ce que tu as besoin, là, en fait, c'est de créer une relation avec Allah. Ne t'encombre pas avec le dunya. Parce que le dunya n'a aucunement sa place de cet échange entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cet enfant. Déjà, l'enfant, il intègre des priorités. Maintenant, quand il a besoin de quoi que ce soit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne que le croyant, il doit s'orienter vers Allah et prendre cette bonne habitude, quelle que soit la nature de la demande. Ça peut être quelque chose de très important. Allez, maintenant, quand on parle du spirituel, du paradis, du jannah, protection contre l'enfer, sans le moindre doute, ça, on a compris qu'on demande à Allah, azza wa jal. Mais même quand il s'agit de quelque chose d'accessible, de dunya, on doit prendre l'habitude de demander à notre Seigneur, Azza wa Jal. on a un petit souci à la fin du mois, on voit que c'est un peu compliqué. Parfois, c'est même pas la fin du mois, c'est dès maintenant. On voit que c'est serré. Allahu musta'an, maintenant les fins du mois commencent au 15. Oui ou non? Allahu musta'an. On vit dans un monde étrange. On vit dans un monde où on paye tellement de choses, on ne sait plus qu'est-ce qui reste pour nous, khair, inshallah. Donc, on a besoin de quoi que ce soit, on voit que la situation est difficile. Ben, plutôt que d'aller voir Fulan, Fulan, s'il te plaît, j'ai un, comment on appelle ça? Un découvrement, un dépassement bancaire, essayer de m'aider, et ainsi de suite. Salli raka'atayn, was'alillah. Tu fais deux raka'at, lève les mains et demande à Allah Azza wa Jal. D'un point de vue cohérent, logique, esprit cartésien, d'accord, l'esprit carté, on va se dire que, attends, mais ça c'est une demande, mais l'argent ne tombera pas du ciel. Donc on se dit qu'il y a un décalage en demander et obtenir cet argent. Oui, mais ça c'est ton entendement, c'est ton aql qui te dit qu'en levant les mains, c'est pas en levant les mains que les gens sont devenus riches. Ça c'est dans ta tête ça. Mais la baraka, la bénédiction de notre Seigneur, c'est quelque chose qui ne passe pas par la couleur des billets. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient avec une carte. C'est quelque chose qui passe, qui transite par un canal invisible. Quand Allah veut te combler de bénédictions, de baraka, Allah Azza wa Jal est capable de te donner min haythu la yahtasib, d'une façon que tu n'imagines même pas. D'une façon qu'on n'imagine même pas. Donc, nous en tant qu'adultes, bila shak, sans le moindre doute, on doit prendre cette habitude de toujours demander à Allah Azza wa Jal et faire en sorte que nos enfants grandissent avec ces valeurs. Ce n'est pas quelque chose de simple ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose de simple? Parce qu'on n'arrive pas à faire des connexions logiques. Quand l'homme n'arrive pas à faire des connexions entre A, B et C, il n'arrive pas à l'intégrer dans sa vie. Il le fera une fois, mais puis il va passer par les canaux qu'il a repérés. Parce que ses yeux l'ont repéré, ses oreilles l'ont compris, et donc son cœur, il a yaqin, construit conviction dessus. Mais nous, on a besoin de construire des convictions sur des points qui sont invisibles. Une demande entre nous et notre Seigneur Azza wa Jal. Et si on a intégré, on a fait en sorte que nos enfants l'intègrent, assurément, ils vont grandir avec ces bases, et ce sera facile pour eux. Ça deviendra quelque chose d'inné. Ça deviendra quelque chose d'acquis, inshallah. Quelles que soient les étapes de leur vie, quel que soit leur âge, ils sauront toujours qu'on doit demander à notre Seigneur, Azza wa Jal. Ida sa'alta, fas'alillah. Relier le cœur de l'enfant à Allah, Azza wa Jal. Que le croyant ait intérieurement cette yaqin, cette conviction, qu'Allah seul peut lui accorder ce qu'il a besoin. Et Allah seul peut lui protéger contre les choses qui l'effraient. Et la suite du hadith, il y avait quelque chose d'important à dire là-dessus, ça me sortait d'esprit, fatigue de fin de journée, khair, inshallah, il y avait un point important, ça ne me revient pas, mes khair. Khair. Le verset, on connaît, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et d'autres versets encore, hein, qui montrent qu'il suffit que le serviteur lève les mains et demande avec conviction, et Allah Azza wa Jal est capable de lui donner. Oui, il y avait une parole, une citation qu'on avait mise sur un des réseaux sociaux aujourd'hui, en arabe, qui est magnifique, et qui nous fait bien comprendre que la notion de baraka, la notion de bénédiction, c'est en rapport avec Al-Ghaib, c'est en rapport avec l'invisible, pas avec les choses qu'on voit. Et dans cette citation, je ne sais pas les de qui d'ailleurs, on l'a récupérée quelque part, mais elle est véridique. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est un tafsir apparemment. Il dit que, voyez, un exemple, hein, voyez combien de frères Youssouf alayhi salam avait. Ils étaient à combien? 11 ou 12. 12, hein, si on compte avec. Famille nombreuse. Théoriquement, vous êtes à 12. Mashallah, c'est une tribu. D'accord? Vous dites qu'à 12, on peut faire bouger le monde, on peut faire avancer des choses, on va... Très souvent, on va se baser sur l'adad, sur la quantité, pour espérer un natija, pour espérer un résultat. Mais Youssouf alayhi salam, est-ce que ses frères ont été... Est-ce que ses frères lui ont apporté de l'aide, ou bien au contraire, ses frères étaient la cause de toutes ces afflictions, ces difficultés? Ses frères étaient la cause de toutes les difficultés. C'est-à-dire, il n'y avait pas de baraka dans cette fratrie. Il n'y a pas eu la nusra qu'il aurait souhaité avoir. Moussa alayhi salam avait combien de frères? Un seul, qui s'appelait Haroun. Allah Azza wa Jal lui a accordé la baraka par ce frère unique. Ce frère unique est devenu son porte-parole auprès de Pharaon. Ce frère a eu le Nubuwa comme lui, alors que Youssouf alayhi salam, ses autres frères, n'ont pas eu le Nubuwa. Binyamin a eu le Nubuwa lui? Est-ce que Binyamin est devenu prophète? Ali Adam Ibn Kathir a bien relié à l'histoire. Est-ce que Binyamin a reçu la prophétie ou non? Mais en tout cas, ses autres frères, non, sans le moindre doute. Et en commentaire, ça ne veut pas dire que Moussa était meilleur que Youssouf. Non, c'est pas ça. Donc on comprend que quand Allah accorde la baraka, c'est quelque chose qui ne dépend pas de chiffres, de nombre, de poids, de kilos ou de quantité. C'est quelque chose, et l'expression était belle, « Jund min junudillah », c'est une armée qu'Allah envoie. La baraka, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, ce n'est pas palpable. Dans peu de choses, Allah peut accorder énormément de bénédictions. Voyez l'histoire de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle était petite. C'est un des versets qu'on lit parfois le matin Fajr. Lorsque il voit Maryam alayhi salam, قالت يا مريم أنى لك هذا. On voit Maryam alayhi salam en train de manger des fruits hors saison. En train de manger, si je ne me trompe pas de tafsir, hein, on parle de raisins, alors que ce n'était pas la période. Elle avait des mets, nourriture, des fruits que personne n'avait. Et on lui demandait, mais أنى لك هذا يعني من أين. D'où est-ce que tu as trouvé ça? قالت هي من عند الله. Ça vient d'Allah. Ajib. قالت هي من عند الله. Après la suite, c'est quoi? إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah, il nourrit, il donne rizq à qui il veut, بِغَيْرِ حِسَابٍ, sans compter, bien sûr, mais également en complément d'autres versets, avec ou sans intermédiaire, de la façon qu'il veut, comme il le veut, Allahu a'lam, de quelle façon. Ça, c'est baraka. Alors qu'une personne peut avoir beaucoup de choses et ne pas jouir de ces choses-là. Donc, le cœur de l'enfant soit orienté vers Allah. Et que nous-mêmes, quelles que soient les situations, ça peut être problème de santé, ça peut être problème d'argent, problème familial, on prenne cette habitude de s'orienter toujours vers Allah et de ne jamais mettre notre confiance sur les makhloukats, sur les créatures. Ça, c'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où on se base sur les gens, on a confiance sur Fulan ou Fulan, telle personne, ben, on n'obtiendra pas l'aide d'Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, n'apprécie pas que l'homme donne sa confiance à autre que lui. Donc si notre confiance elle va sur les makhloukat, Allah nous laisse gérer nos affaires avec eux et nous savons qu'aucune créature ne peut être profitable à quelqu'un d'autre sans l'ordre d'Allah, d'où les autres paroles du hadith qu'on va voir de tout de suite. Donc ça c'est une conviction à forger tant pour l'enfant que pour les adultes. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Alors comment ils ont traduit wa idha sta'anta? Il te connaîtra dans le monde des détresse. Sache que, non, du coup on n'a pas la traduction. Quand tu cherches de l'aide, demande-le à Allah. Ça c'est bien. Quand tu cherches de l'aide, wa idha sta'anta, fasta'in billah, demande-le à Allah. Et ça rejoint idha sa'alta. On va dire que su'al, c'est tout ce que tu as besoin. Isti'ana, c'est quand tu es en danger, quand il y a quelque chose qui te cause préjudice et tu as besoin d'un refuge, d'une protection. Cherche toujours la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cela va également dans le sens de Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dua que nous demandons tout le temps. Nous devons nous en remettre à Allah Azza wa Jal et intégrer cette conviction que quand on a besoin de l'aide, on doit demander uniquement à Allah Azza wa Jal. Et cela sera possible qu'à partir du moment où notre tawhid sera renforcé dans notre cœur. Plus l'unicité d'Allah Azza wa Jal prend de la place dans notre cœur et donc notre iman augmente, plus facile il nous sera de lever les mains pour demander à Allah ce qu'on a besoin de toutes circonstances et également de nous orienter vers Allah qu'on a besoin de son aide. Mais quand notre notion de tawhid est faible, on aura du mal à le faire parce que notre conviction en Allah est faible. Donc, et comment est-ce que l'unicité d'Allah pénètre les cœurs? Tout ça va démarrer avec la bonne intention de faire les bonnes actions, la bonne intention de s'éloigner des interdits et donc de rester éloigné des interdits. Le iman augmente, Allah nous donne plus de tawfiq de faire les bonnes actions, la conviction en Allah augmente et de cette façon la foi augmente, la conception du tawhid augmente dans notre cœur et nous sommes capables de lever les mains et nous sommes capables de nous orienter vers lui dans n'importe quelle situation. Tout commence par la bonne intention et l'accomplissement des bonnes œuvres. L'effort qui vient de l'homme, quand l'effort, le premier pas est fait par l'être humain, ensuite on obtient l'aide d'Allah. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Donc tout va commencer par nos efforts, notre intention et les efforts qu'on va essayer de faire. Hada. Et en commentaire, les muhadithins disent également, vous voyez, qu'à travers ce verset, nous voyons c'est quoi un homme libre. Un homme libre, c'est quelqu'un qui n'a peur de personne. C'est quelqu'un qui n'attend rien de personne. C'est une personne qui ne se courbe devant personne. Je n'ai pas besoin de me rabaisser pour obtenir les faveurs de monsieur un tel, de monsieur un tel. Je n'ai pas besoin de faire le dos rond ou de faire l'hypocrite parce que j'ai peur d'un tel, d'un tel. Non, le croyant, le mu'min, il a son espoir, on appelle ça al-raja, c'est uniquement en Allah. Et ses craintes, sa crainte, c'est uniquement de son Seigneur et d'aucune créature. Aucun espoir sur les gens, aucune crainte des gens. De cette façon, on est vraiment quelqu'un de libre. Libre spirituellement, psychologiquement, et on se renforce. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui évolue dans la société et qui a peur de tout le monde, qui développe des complexes et qui va se rabaisser pour obtenir les faveurs des gens. C'est quelqu'un qui est en train de se dénaturer. C'est quelqu'un qui est en train de se rabaisser psychologiquement et de s'affaiblir. Alors que la personne qui a, mashallah, ça ne veut pas dire qu'on doit être fier de nous, non, mais qu'on a une conviction en Allah et uniquement en Allah. Et qu'on a besoin de personne. Ce croyant, spirituellement, mashallah, il sera au top, mais même psychologiquement, c'est quelqu'un qui sera fort dans sa tête. Vous savez, il y a des fois, vous tenez une conversation avec quelqu'un et vous avez parfois un litige avec une personne. Vous voyez que avec cette personne, même s'il n'est pas très grand, c'est pas un larmois blindé, il n'est pas ceinture noire, il n'est pas tout ça, mais vous savez que avec cette personne, vous n'allez pas gagner. Parce qu'il a une force mentale. Psychologiquement, il est fort. Pourquoi ? Il est sûr de lui. Il est sûr de ce qu'il dit. Il a les pieds fermement accrochés sur la terre, dans le sens qu'il sait où il va. Il n'a rien de son background. Il n'a rien de son casier judiciaire, dans le sens qu'il n'a rien à se reprocher. Il a une orientation fixe. Il a une conviction sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Il sait exactement que ce qu'il est en train de dire, c'est haq. Ben, avec ce genre de personne-là, vous n'aurez jamais le dessus. Parce que c'est quelqu'un qui est fort psychologiquement. Ben, le mu'min, imaginez qu'il est fort psychologiquement, et avec ça, on greffe la force spirituelle, c'est-à-dire la conviction en l'invisible, cette foi en l'invisible, ben, c'est quelqu'un qui sera comme, et je dis comme, hein, j'exagère, on va retrouver Umar ibn al-Khattab, on va retrouver Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, des monuments de notre dîn. C'était ici ça qu'on avait cité l'histoire de Umar ibn al-Khattab ou dans un coin de Sirat. Lorsque Umar al-Farouq était Amir al-Mu'minin, un commandant de ses armées envoie un message. Rappelle de ça. Pendant une campagne où l'armée des musulmans était en difficulté. Il dit Amir al-Mu'minin, on a besoin d'un renfort, on a besoin de 6000 personnes. On a besoin de 6000 cavaliers. 6000 combattants, parce qu'on a des difficultés, on a du mal à faire face à l'ennemi. Umar ibn al-Khattab reçoit le courrier qui a cheminé par un cheval, et ainsi de suite. Umar ibn al-Khattab va envoyer combien de personnes? Combien ils ont demandé? 6000. Umar va envoyer 6 personnes. C'était soit 5000, donc il envoie 5, soit 6000, soit il envoie 6. J'ai peut-être oublié entre 6000 et 5000. Mais il envoie 1000 fois moins. S'ils avaient demandé 6000, on va rester sur la 6, il en envoie 6. Le amir là-bas, le chef de l'armée, il est étonné. Et il s'attend à recevoir, mashallah, une colonie à perte de vue de combattants armés jusque dedans. Et il reçoit une petite délégation de 6 personnes. Et ces personnes amènent un parchemin sur lequel Umar ibn al-Khattab avait dit que tu m'as demandé 6000 personnes, je t'envoie 6 personnes. Et chacune de ces personnes, ces sahaba, ont un iman qui est l'équivalent de 1000 personnes parmi vous. Et avec ces 6 personnes, vous aurez la nusra d'Allah. Parce que c'est des gens qui ont confiance en Allah. Le a'mal est pur. Ils s'éloignent du haram. Ils ne sombrent pas dans les insufflations de shaitan. Ils ne sombrent pas dans les pièges, dans les délices de leur nafs. C'est des gens qui ont une conviction en Allah tellement forte. Des gens que lorsqu'ils lèvent les mains, ils ont l'aide d'Allah. Lorsqu'ils disent « Iyak wa iyak anasta'in », ils obtiennent l'isti'an, ils obtiennent le aoun, l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est avec ces gens-là que vous allez avancer. Ce n'est pas avec des flèches, avec des épées, avec des boucliers. C'est avec la force spirituelle. Ça nous fait comprendre que quand on est fort mentalement, spirituellement, subhanallah, tout réussit. Et s'il y a des choses qui ne réussissent pas, ce sont là des ibtilas, des épreuves de la part d'Allah. Et notre prophète nous a appris également comment gérer ces situations. Mais quand le iman est installé dans le cœur, l'homme, le mu'min, accepte ces épreuves avec grande joie parce qu'il sait les interpréter. Donc tout va démarrer du cœur, de notre iman et de nos a'mal. Hada. Puis en commentaire, Muhadith nous dit également « Wa idha sta'anta fasta'in billah » Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on demande l'aide d'Allah, Ça ne veut pas dire forcément que l'aide d'Allah va venir immédiatement. Non. Il y a des fois où l'aide d'Allah Azza wa Jal arrive immédiatement. Il y a des fois où l'aide d'Allah Rabbul Izzah va arriver plus tard. Ou il y a des fois où l'aide d'Allah Azza wa Jal ne viendra pas de ce dunya. Mais Allah a décidé que sa nusra ne viendra pas de ton vivant, mais il y aura des hasanas, des récompenses de l'au-delà. Dans tous les cas de figure, quand on demande à Allah, assurément on a la garantie que la demande a été exaucée. Soit on a la concrétisation de nos demandes, maintenant, immédiatement, comme on le souhaitait, soit on le voit, mais plus tard, et ensuite on comprend la hikmah, la sagesse d'Allah, dans le fait d'avoir retardé l'acceptation du doua, ou alors on le reçoit de l'au-delà, mais en aucun cas on doit douter. Pourquoi ce n'est pas venu l'aide d'Allah? Là j'étais en difficulté, Allah n'a pas envoyé son aide. L'aide est venue mais un mois plus tard. Mais le mu'min, il est intelligent. Il réfléchit avec son iman et pas uniquement avec son cerveau. Il sait que si l'aide d'Allah arrive plus tard, c'est qu'il y a une sagesse. Et comment est-ce qu'il va se faire une raison? Parce qu'il a lu les textes, parce qu'il aime son Seigneur, il sait qu'Allah agit toujours de la meilleure façon avec son serviteur, mais également c'est quelqu'un qui se renforce, on avait dit tout à l'heure, qui se renforce par le ilm, il apprend son dîn. Du coup, quand il apprend sa religion, il connaît l'histoire de son dîn. Il connaît donc l'histoire des pieux prédécesseurs. Il connaît l'histoire des autres anbiya. Et donc, il sait que, par exemple, Moussa alayhi salam avait demandé l'aide d'Allah à maintes et maintes reprises, mais l'aide d'Allah est venue d'une façon différente. D'une façon que lui-même, il ne s'imaginait pas. Et que lorsque l'aide d'Allah est venue, donc plus tard, d'une façon qu'il ne s'imaginait pas, quand la nusra d'Allah est intervenue, il a réalisé que cette aide-là, c'était meilleur que tout ce qu'il avait demandé, avec tous les détails. C'est-à-dire l'homme, il réfléchit, il pense que la meilleure solution, la sortie, entre guillemets, de crise, ce serait de cette façon. Mais Allah te montre que non, c'est de cette façon que c'est mieux. Lorsque Moussa traverse, arrive au niveau de la mer, Allah Rabbul Izzah envoie son nusra, la mer va s'ouvrir, Moussa alayhi salam passe avec son peuple, et son peuple à un moment donné dit, pourquoi est-ce que tu ne refrappes pas la mer de ton bâton pour que la mer se referme et l'armée du Pharaon ne puisse plus nous atteindre. Mais cette deuxième partie de l'aide d'Allah n'est pas venue tout de suite. La première partie, elle est venue, ils étaient tous contents, les Banu Israël, alhamdulillah, on a pu traverser. On ne va pas se faire massacrer sur cette plage, près de cet océan. La deuxième partie de la nusra qu'ils attendaient, c'est que la mer se referme et que l'armée de Pharaon reste éloignée. Ils ne voient pas la nusra arriver, ils commencent à douter. Il y en a qui commencent à douter, mais Moussa alayhi salam, il a la conviction que la volonté d'Allah azza wa jal est remplie d'une hikma, d'une sagesse que nous ne pouvons pas comprendre. Et lorsque cette aide d'Allah va arriver de manière décalée, là, l'être humain réalise que c'était ça la meilleure solution, que l'armée rentre. Et là, les gens doutent. Et ils arrivent. On était à quelques mètres avant la mer. On a pu traverser, mais du coup, ils nous rejoignent. Donc, la situation, elle est aussi catastrophique qu'avant. Rien n'a changé en finalité. Non, rien n'a changé parce que tes yeux voient les choses de cette façon. Tes oreilles l'entendent de cette façon. Donc, ton cœur le conçoit de cette façon. Mais garde ta conviction en Allah. Qu'Allah Azza wa Jal choisit la meilleure des choses pour ses serviteurs. Effectivement, l'armée du Pharaon rentre de cet océan. Lorsqu'il ne reste plus un cavalier de l'armée du Pharaon sur la plage, et qu'ils sont tous dans la mer, et que le premier est à deux doigts de rejoindre, c'est moi qui rajoute, hein, il va presque rejoindre Moussa alayhi salam, et que le dernier est déjà rentré de la mer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne de l'autre côté, là Allah Rabbul Izzah demande à Moussa alayhi salam de frapper la mer, une seconde fois et la mer va se refermer, ils vont tous périr, noyés, détruits, et il n'y aura plus un combattant de l'armée de Pharaon. Et c'est là la nusra kamil, l'aide parfaite d'Allah Azza wa Jal. Quand Ibrahim alayhi salam tombe dans le feu, vous vous rappelez de l'histoire, il a été catapulté. Pourquoi catapulté? Parce que le feu que ces mouchriquins avaient préparé était tellement ardent, incandescent et tellement puissant qu'ils ne pouvaient même plus s'en approcher pour jeter Ibrahim alayhi salam. Ils ne savaient plus quoi faire. On a préparé un feu gigantesque que même les oiseaux qui passaient au-dessus tombaient et étaient brûlés par la chaleur. Il dit, mais comment on va le mettre dedans? Il faut le mettre au milieu. Donc ils ont eu cette idée de l'envoyer par le biais d'une catapulte. Lorsqu'Ibrahim al-Islam est projeté en l'air et qu'il s'apprête à tomber, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah n'envoie pas une pluie abondante qui va éteindre ce feu? Pourquoi est-ce qu'Allah n'envoie pas une tempête qui va souffler et éteindre ce feu? On peut se dire plein de choses. Imaginez que nous étions présents à ce moment et que nous assistions à cette scène. On se dit que quand vient l'aide d'Allah, mais Iyyaka nasta'in ne marche donc pas cette fois-ci. Mais non, l'aide d'Allah, c'est au-dessus de tout ce que tu peux concevoir. Si Allah avait envoyé une pluie ou un vent, le feu se serait éteint. Oui, mais ça aurait été partie remise. Les ennemis, ils ont vu que le feu est éteint, ils vont revenir, ils vont le reprendre, le capturer pour d'autres tortures. Allah décide que ce feu reste brûlant, insupportable pour tout le monde, sauf pour Ibrahim alayhi salam. Qulna ya naru, kuni barda wa barda wa salama ala Ibrahim. Un feu doux, agréable. Qu'Ibrahim est au milieu de ces flammes et dit, je n'ai jamais vécu une période si agréable toute ma vie. Et les mouchriquins ne peuvent même pas s'approcher. Du coup, il est protégé par le qaïd, par le piège des mouchriquins. Il est sous la protection d'Allah dans cet endroit et personne ne peut plus l'atteindre. Ça, c'est Kamal al-Nusra. C'est-à-dire que lorsqu'on demande, on demande à Allah de l'aide, on demande, mais maintenant, on remet tout dans les mains d'Allah. Quand Allah enverra son aide, c'est là que, alhamdulillah, on l'aura et on remercie Allah Azza wa Jal. Ce sera quand Allah a décidé et dans sa décision, il y a un khair. Il y a des fois où la Nusra ne vient pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'a pas accepté, n'a pas exaucé tes doigts. C'est qu'Allah va t'accorder des choses incroyables de l'akhira. Qutila ashabul ukhdud an-nar dhat al-waqud. Lorsqu'ils avaient creusé le fossé dans Sama'i dhat al-buruj, ils jetaient hommes, femmes, enfants, vieillards de ce feu. Ils les brûlaient vivants parce qu'ils avaient la ilaha illallah de leur cœur. On se dit, mais où est la nusra d'Allah? La nusra d'Allah, elle n'intervient pas maintenant. La nusra d'Allah sera dans le akhira. Allah va élever le grade de ses shuhada et Allah va détruire, va humilier, va montrer, va donner en exemple le châtiment de ses valimines. Et là-haut, les gens vont remercier Allah. Parce que dans le akhira, recevoir l'aide kamila d'Allah Azza wa Jal, c'est beaucoup mieux que de le recevoir de ce dunya. Parce que là-haut, on a besoin d'Allah. Plus que maintenant. Ici, on est maltraité. On nous insulte. On nous frappe. On fait preuve de pression. Combien de temps ça va durer? 10 ans, 15 ans, 20 ans. En finalité, alhamdoulilah, il y a la mort. La mort nous sépare de toutes ces souffrances du dunya. Mais dans le akhira, c'est là-haut qu'on a réellement besoin de l'aide de notre Seigneur, parce que les épreuves de l'au-delà sont éternelles. Et quand l'aide d'Allah nous couvre, c'est-à-dire Allah nous protège dans le akhira, c'est là que l'homme se trouve, il va être reconnaissant vers Allah Azza wa Jalla. Dans un hadith, le Prophète avait expliqué le cas de cette personne qui, le jour de Qiyam, va retrouver des djibal, des montagnes de hasanat. Il va dire, oh Allah, ces bonnes actions, je ne les ai pas accomplies. C'est pas moi qui a fait tout ça. C'est l'homme, le jour de Qiyam, en lisant son livret de compte, il sait exactement qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. De bien comme de mauvais. Il va voir des montagnes de récompenses, dire, oh Allah, ça c'est pas moi qui a fait. Et on lui répondra que ce sont là les invocations, les doigts que tu avais fait dans ce monde et qu'Allah n'avait pas concrétisé tout de suite. Pas qu'Allah n'a pas exaucé, parce que le doigt du croyant est exaucé. Mais comment est-ce qu'Allah exauce ce doigt? Soit il te le donne maintenant, soit il te le donne plus tard, soit il te le garde pour le akhira avec des hasanats. Lorsque cette personne va voir les montagnes de récompenses en compensation, et le mot n'est pas adapté, c'est pas une compensation, mais on va dire en compensation des doigts qu'Allah ne lui a pas exaucé tout de suite de ce monde, il va avoir ce souhait, si seulement aucun de mes doigts n'était accepté de ce monde, pour avoir encore et encore et encore plus de bonnes actions qui vont peser dans ma balance pour me faire obtenir de haut grade et pour me protéger définitivement du nar au jahannam. Vous voyez le décalage de conception entre nos demandes et nos attentes de ce monde et nos demandes et nos attentes de l'akhira. Il est beaucoup mieux de garder nos attentes pour le-delà que de les avoir pleinement de ce dunya. Donc, « wa iyyaka nasta'in », le hadith que je voulais dire, « wa idha sta'anta fasta'in billah », oui, demande toujours l'aide à ton Seigneur, mais sache que l'aide d'Allah intervient quand Allah le jugera nécessaire et munasib, par sa hikmah, sa sagesse qui est infinie. Et quand tu demandes à Allah, tu places ta confiance en lui et tu attends, sans jamais douter de l'acceptation des doigts ou de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un point essentiel également quand on enseigne ça aux enfants. Il ne faut pas que l'enfant arrive à un stade et dit oui, mais demande à Allah tel jouet, demande à Allah, il veut un PS4, ou il veut telle chose, ou le dernier Galaxy S, quoi. Le dernier, c'est quoi? S6. Mais il demande. Ce matin, Fadja, j'ai demandé, dit Allah, j'aimerais que quand je rentre chez moi, il y ait un Galaxy S6 sur mon bureau. Ouais. Ce soir, j'ai demandé. Demain, je demande. Mais il n'y a pas. Fais comprendre à l'enfant que, un, fais des demandes nobles à ton Seigneur. Ne demande pas des choses futiles. Demande à Allah ce qu'il y a de mieux pour ton akhira. D'où les premiers termes où on fixe les priorités de le cœur de l'enfant. Les priorités, c'est accepté par Allah, protéger le dîn d'Allah pour avoir l'aide d'Allah. Du coup, ces demandes vont être en rapport avec ce qui lui est cher. Si un enfant dans son cœur, il n'a que le dunya, ses demandes seront les reflets de ce qu'il donne comme ihtimam, comme importance. Mais si dès le départ, son ihtimam, l'importance qu'il donne, c'est uniquement pour sa relation avec son Seigneur, assurément ses doigts seront en rapport avec ce qu'il attend, les attentes. Donc, déjà, convaincre l'enfant que demande des choses bien. Également, enseigner à l'enfant que quand tu demandes, il y a des fois où Allah te donne, il y a des fois où Allah te laisse patienter pour voir comment tu réagis. Tu crois toujours en lui ou tu doutes? Vous savez, le hadith du Prophète dit que le serviteur verra ses doigts exaucés. Ma lam yaqul da'outu falam yustajab li. Nos doigts sont exaucés tant qu'on ne dit pas j'ai demandé, mais Allah ne donne pas. Allah ne m'a pas exaucé. C'est quand on dit je demande, mais Allah ne me donne pas, c'est là qu'Allah ne te donne plus rien. Nasallallahu salamata wa al-afiya. Donc quelqu'un peut demander un doigt à 25 ans, 30 ans. Une personne, un enfant qui est malade, demande doua, sabah wa masa, matin et soir, qabla as-salah wa ba'da as-salah, avant chaque prière, après chaque prière. Il demande des doua ici, il demande des doua yom al-jum'a, il demande des doua devant la Kaaba, il demande des doua fil masjid al-Nabawi, il demande des doua Arafat, Muzdalifa, tous les endroits les plus nobles, fil makan, les endroits les plus nobles, fil zaman, de le temps, Ramadan, Laylatul Qadr. Allah n'accorde pas shifa, Allah n'accorde pas la santé à cette personne qui est malade parmi ses proches. À chaque fois qu'il demande, il obtient quelque chose de la part d'Allah, mais quelque chose qu'il ne voit pas. Allah n'a certainement pas décidé, Allah a décidé de ne pas donner le shifa, la santé à cette personne de ce dunya. Hikmatun baligha, pour une sagesse qu'Allah seul le sait, une sagesse pour toi et pour l'éprouver. En fait, les deux sont éprouvés, la personne concernée et la personne qui demande. Pour les deux, il y a un khair. Pour que cette épreuve perdure et dure. Un khair de ce dunya et de l'akhira. Et le grand khair, la personne le verra de l'au-delà. Mais à chaque fois qu'il demande, il obtient quelque chose de la part d'Allah, même s'il ne le voit pas, mais ça cumule. Jour de Qiyama, il voit 25 années de dua. Et s'il demandait ce dua au moins 5 fois par jour, je ne peux pas vous dire ça fait combien. Multiplié 25 par 360, multiplié par 5, ça fait des chiffres astronomiques, mashallah. Il voit tout ça de l'akhira, il comprend que c'était là l'acceptation. C'est ça le kaboul. C'est ça. Ça fait partie des différentes façons qu'Allah exauce les demandes et les requêtes de son abd, de son serviteur. Donc, il faut que l'enfant réalise et que jamais il ne doute de la clémence d'Allah et de l'acceptation des doigts et qu'on le fait comprendre également que si tu demandes, Allah peut-être il ne veut pas te donner ça, mais il va te donner quelque chose de terrible, de magnifique, mais là-haut. Qu'est-ce que tu préfères du coup? Là-haut, un super truc, le Jannah, ou alors un petit morceau de métal ou de plastique. Mais que l'enfant, il intègre ça, il comprend la valeur du dunya et la réalité des valeurs du akhira. C'est le cas d'une personne, je connais personnellement, une personne qui a connu une épreuve, une période difficile de sa vie récemment. Je l'ai appris hier. On va dire une déception sentimentale. Déception sentimentale, période, une personne qui était en âge, en période où il devait se marier, les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Mais mashallah, quelqu'un qui, dans les a'mal, mashallah, correct, prière, doua, lecture de Coran, alhamdulillah, éloignement des péchés, ça je ne peux pas dire, Allah seul le sait, mais dans les bonnes œuvres, alhamdulillah. Et je sais que la personne demandait énormément de doua pour la concrétisation de ce mariage. Les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Quand tu commences à douter de tes doigts, tu n'as plus rien. Quand tu commences a douté de la clémence d'Allah, de son pouvoir, d'une façon, de cette façon, doute de son pouvoir et de sa gentillesse, de sa bonté. Parce que quelqu'un dit, je demande, je fais de bonnes actions, je ne fais pas de péché comme certains le font, moi je ne fais pas, et je demande, Allah ne me donne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu doutes de la bonté d'Allah. Allah t'a abandonné. Maintenant, n'abandonne jamais le serviteur. Ça, c'est des situations dramatiques. Husnul dhanni billah. Toujours avoir une pensée positive d'Allah. Il faut apprendre à connaître notre Seigneur. Et là, on rejoint un discours, un vieux discours qu'on dit tout le temps. Connaître notre Seigneur, c'est le connaître par le biais des versets du Coran. C'est le connaître également par ses noms, ses attributs. Connaître les qualités de notre Seigneur pour qu'on devienne... on soit admiratif de notre Créateur et qu'on ait une confiance totale, qu'on apprend, ça veut dire quoi, Rahman, Rahim, Karim, et que son trésor est sans limite, et on connaît Allah, et donc de cette façon, on ne doutera pas une seconde de sa clémence. Et de cette façon également, dans les moments, d'autres moments difficiles, la perte de proches ou la perte des personnes qu'on aimait, hein, on n'aura pas ce genre de doute de nos cœurs, on sait que même si c'est une épreuve difficile, elle vient d'Allah pour une sagesse. Ça, cet état d'esprit, on peut l'avoir qu'à partir du moment où on a développé une relation très profonde avec notre Seigneur en connaissant les qualités d'Allah Azza wa Jal. Et c'est tout ça qu'on doit essayer, Inch'Allah, d'enseigner à nos enfants. وَإِذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Donc on a vu l'exemple des Anbiya, عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. On va s'arrêter là pour ce soir, on a fait 46 minutes. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois, on va dire... un peu, c'est pas la conclusion encore, mais une autre phrase qui englobe un petit peu tout ça. L'amour pour Allah, la conviction en Allah, le fait d'orienter les cœurs vers Allah et non pas vers les créatures. Et du coup, comprends, oh mon enfant, que si toutes ces personnes-là, là, ils voulaient t'aider, ils feront rien pour toi, si ce n'est ce qu'Allah a déjà décidé. C'est-à-dire, n'aie pas confiance en eux, aie confiance en Allah. Et si ces gens-là, ils veulent te faire du mal, n'aie pas peur, mon enfant. L'enfant, de par sa nature, il développe des peurs. L'enfant a peur, c'est normal. Chasser la peur des makhloukas du cœur de l'enfant. Tout comme chasser hubb dunya et ta'alluqul quloub bi ghayrillah, que le cœur ne soit pas attaché à autre qu'Allah et que le dunya n'entre pas, n'ancre pas dans ce cœur et mettre uniquement Allah dans ce cœur. Et ça, c'est vraiment les bases du yaqin. Après lui avoir, le prophète, après lui avoir donné les bases, les thèses, pardon, c'est de se reconcentrer, que le prophète, il met dans son cœur. Ta priorité, c'est ta relation avec Allah. Deuxième chose, parce que lui enseigne ses thèses. Tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Tu as besoin de l'aide, demande à Allah. Allah va t'aider, Allah va t'accorder. Maintenant, le cas concret, ça c'était les thèses. Maintenant, la pratique, l'application. L'application, c'est, voilà, ces gens, ils veulent te faire du mal, ils ne pourront rien. Ces gens, ils veulent t'aider, ils ne pourront rien si Allah ne l'a pas décidé. Ça, c'est une première approche de cas pratique avec un exemple de quelque chose qui peut être conçu, qui peut être intégré par l'enfant. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la possibilité de comprendre ces quelques paroles, que la réalité pénètre et augmente. Chers frères, ce soir, c'est le premier Rajab. Nous sommes entrés ce soir, c'est bien ce soir, je ne me trompe pas, oui, dans le mois, parmi les mois sacrés, Rajab. Et c'est un des mois qui précède Ramadan. Et quand on disait en introduction qu'on a grandement besoin de la guider de notre Seigneur et de l'Ansarat al-Mustaqim, le Ramadan fait partie des moyens de Hidayah de notre Seigneur Azza wa Jal. Et cela émane de sa rahma, de sa clémence, de son amour pour nous. Sachant que les autres communautés n'ont pas eu ce ni'ma comme nous avons, même si eux ils ont eu le saum, comme un kutiba ala alladhina min qablikum, mais ils ne l'ont pas gardé. Ils ont tellement falsifié leur révélation, qu'en finalité, ils ont tout perdu. Mais que nous avons cette chance, après plus de 1400 années, nous l'avons toujours, ce Ramadan, ce Saum. C'est une période magnifique, exceptionnelle. On va jeûner, bien sûr, mais également, on va développer, on va essayer d'améliorer notre relation avec notre Seigneur. Par le biais de l'accomplissement massif de bonnes actions, par le biais de l'éloignement du haram, par le biais d'une connexion avec Allah, en maîtrisant notre nafs, en affaiblissant notre nafs, en nous éloignant du diable, plutôt c'est lui qui s'éloigne de nous parce qu'il est enchaîné. De cette façon, on est dans les conditions, comme on dit, optimales, meilleures conditions pour obtenir la proximité avec notre Seigneur. C'est donc là un cadeau spirituel de la part d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, pour accueillir correctement, dans les meilleures conditions, ce cadeau qui est le Ramadan, on a besoin
de le préparer. Et la meilleure façon de le préparer, mes chers frères en islam, c'est premièrement de demander à Allah son aide pour que ces jours passent de la meilleure des façons. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Cette première partie du hadith est authentique. Barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Accorde-nous la baraka. La baraka, on a dit tout à l'heure, c'est l'aide d'Allah, c'est ce qu'Allah peut nous donner. Ben, dans ces mois-là, Rajab wa Sha'ban, on a besoin de la nusra d'Allah. Quelle baraka on a besoin? Accorde-nous beaucoup de nourriture. Pour que au mois de Ramadan, j'ai plein de choses dans mon placard, dans mon frigo. C'est pas ça la baraka. Qu'Allah nous donne la possibilité de vivre des jours remplis de spiritualité maintenant, Rajab, Sha'ban, afin que quand on demande Ramadan, Inch'Allah, on est dans les meilleures conditions. La deuxième partie, il y a kalam ulama, muhaddithin sur balighna Ramadan, mais on ne va pas entrer dans les détails concernant les chaînes de narration. Hadith rapporté par Mahmoud et par d'autres, certains disent sahih, d'autres un peu da'if, mais la majorité des savants disent qu'on peut faire un timan sur ce doua. Ce qu'on doit retenir, c'est que la préparation du Ramadan, elle commence ce soir, Rajab. À partir de ce soir, on doit essayer de développer, de faire un premier pas dans les a'mal du mois béni. Les conseils qu'on pourrait donner, je donne maintenant et pas la semaine prochaine, parce qu'on aura déjà perdu une semaine, ce serait dommage. Comme on dit que Ramadan, il faut profiter de la première minute, il ne faut pas perdre un jour. Moi, je serais tenté de dire que Rajab aussi, il faut commencer la préparation dès maintenant. On a besoin de cette préparation. Cet homme donne, c'est une image, hein, il dit, c'est comme un, mais j'aime pas trop ce genre de comparaison, c'est comme un sprinteur ou un grand sportif qui va faire un 100 mètres ou un 400 mètres, d'accord, le Jeux Olympiques, il prépare cette épreuve pendant des mois et des mois et des mois. De cette façon, on prépare le Ramadan durant le mois de Rajab et Sha'ban. C'est un exemple qui nous donne une approche des choses, mais bon, pour moi, ce n'est pas l'exemple le plus probant. On a besoin de préparer les a'mal du mois béni de Ramadan dès maintenant, et ces a'mal sont les suivants. Tilawatul Qur'an, lecture du Qur'an. Il faut être réaliste, il y a énormément, ou la majorité des gens ne lisent pas le Qur'an en dehors du mois béni. Ou alors, on se limitera à Yassine le matin, Al-Mulk le soir. Et si on est un peu, alhamdoulilah, quelqu'un de bien, ce sera Al-Waqi'a, entre Maghrib et Isha, avant de dormir aussi, et Al-Kahaf, le jour du Jum'a, vendredi. Ça se limite à ça. Et très peu de gens enchaînent les Khatm al-Qur'an d'un Ramadan à l'autre. Très souvent, le Khatm al-Qur'an se déroule durant le mois de Ramadan, jusqu'au Eid. Après le Eid, salam alaikum. On se retrouve au prochain Ramadan. On se pose la question, qui parmi nous a fait au moins un khatam, un khatam al-Qur'an depuis Ramadan dernier? On se pose la question nous-mêmes. Donc la première chose à travailler, c'est la lecture du Qur'an. Pensez bien qu'une personne qui ne lit pas le Qur'an toute l'année, le premier Ramadan, comment est-ce qu'il va le lire directement? Un juz, deux juz par jour? Ça va pas être facile. Il va râler, il va lire, il va être déconcentré, il va penser à autre chose. Il va s'arrêter, il va recommencer à lire, il n'aura aucune concentration, il va s'endormir, il va mâcher les mots, il lira sans tajwid. Ce ne sera pas une bonne lecture. Ce ne sera pas une lecture profitable. Dès maintenant, on commence à lire un peu plus le Coran. On commence par safha, une page par jour, une page et demie, deux pages, trois pages, comme on peut. Ça nous fera des hasanat. Ce n'est pas un entraînement, c'est des ibadah. C'est des récompenses. Et de cette façon, le cœur, il commence à s'attacher au Coran. Et quand le mois de Ramadan arrive, vous ne vous imaginez pas, vous, votre lecture du Coran de le mois de Ramadan n'a pas le même niveau que la lecture de Rajab et Sha'ban. Parce qu'en termes de spiritualité, vous êtes au top. Donc votre cœur est beaucoup plus réceptif. Donc cette lecture vous sera spirituellement beaucoup plus profitable. Mais on a besoin de travailler le Coran dès maintenant. Deuxième conseil, on a besoin de travailler la qualité et la quantité de nos salats. C'est le moment de commencer à s'habituer au Qiyamul Layl si ce n'est pas déjà fait. À prier de l'Tahajjud. D'autant plus qu'on est en hiver. Ouais, il fait un peu chaud quand même, mais officiellement on est en hiver. Et l'hiver c'est Rabi' al-Mu'min, c'est le printemps du croyant. Parce que en hiver la salat d'Isha elle est très tôt et la salat de Fajr très tard. Donc les journées sont courtes, les nuits sont longues. Possibilité de faire Qiyamul Layl, on n'a pas besoin de se lever 3 heures du matin. C'est Subh al-Sadiq, il y a qui est là en ce moment, hein? 5-16. On se réveille à 4h30, mashallah, on peut faire 8 raka'at de Qiyamul Layl, c'est possible, et demander doua. Donc, deuxième piste, on essaie de travailler Tahajjud. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas Tahajjud toute l'année, Qiyamul Layl, le jour awal de Ramadan, se réveille déjà, ça va être très difficile. Et en plus, quand on dit réveiller 30 minutes avant, 40 minutes avant pour faire tahajjud et doua, ça va être terrible. La personne ne pourra pas le faire ou le fera avec beaucoup de difficultés et il lui faudra 10 jours, 15 jours pour prendre le rythme. Akhi, tu prends le rythme quand il reste 15 jours. Quand est-ce que tu profites spirituellement? Il y a quelque chose à d'être debout dans la prière de la nuit, mais le meilleur c'est être debout et profiter de cette, l'apprécier spirituellement et non pas juste répondre présent. Donc c'était maintenant on a besoin de travailler. On commence par 2 rakat tahajjud. Si tu dis c'est 5h16, bah 5h on se réveille. Demain, 5h, bas, yakfi. On fait 2 rakat et on demande doua 20 secondes s'il le faut. Et demain, je fais 2 rakat et je demande 40 secondes de doua. Doucement, doucement. On dit chouaïa. En fonction de notre capacité. Mais vous savez, ça va être un pas vers Allah et Allah va faire 2 pas vers nous. C'est-à-dire qu'Allah va nous ouvrir les portes de l'acceptation. Allah va nous donner istiqama pour continuer à le faire et la baraka dans ses aman sur le plan qualitatif, il y aura une véritable connexion qui va se créer avec Allah Azza wa Jalla. Et quand le Ramadan arrive, mashallah, la prière de la nuit, ça deviendra quelque chose d'acquis et pour lequel nous avons beaucoup d'attachement et il y aura la qualité, inshallah. Maintenant, imaginez avec le flux spirituel, la baraka qui descend et nous, on est présents, on fait les prières avec concentration. Comment est-ce qu'on va exploser spirituellement? Ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Troisièmement, doua, ça on a dit. À peu près, on commence à passer un peu plus de temps dans les invocations, dans les doua. L'éloignement du haram, contrôle de son nafs. C'est dès maintenant qu'on commence à contrôler. Quelqu'un qui toute l'année, il fait le vigile, pour ne pas dire le voyeur, pour rester respectueux. Et le premier ramadan, il demande de baisser le regard. Ça va être dur. Faudra qu'il mette les lunettes, là, comme le... Comment ça s'appelle, là? Ah, pas 4 fantastiques, je ne sais pas, l'autre Marvel, là. Le gars qui... Hein? Non, en général, quand je pose une question, c'est pour que vous ne répondiez pas. Pour vous montrer que vous êtes désintéressé. Donc vous avez tout raté. Désolé. Comme Cyclope, c'est un piège. Comme celui qui a les rayons là, il faut mettre un cache. Sinon c'est dur. C'est une torture pour la personne qui a l'habitude de tout regarder. Premier Ramadan, c'est une torture. C'est Rajab, il commence, mashallah, contre le regard. Alhamdulillah, Ramadan, il devient champion. S contrôle de regard. Il est au top dans cet exercice. Pareil, contrôle de nos oreilles. Dès maintenant, on arrête. Si quelqu'un est malade de musique, dès maintenant, on s'arrête. Parce que si quelqu'un, toute l'année, il écoute telle chose, il écoute tel tube, il aime son reggae, il aime son truc, il a le rythme quand il vient à la mosquée. Même, j'ai déjà vu des gens qui viennent à la mosquée, ta, comme ça. Ben, Ramadan dit, il faut arrêter net, je ne comprends plus là. Dieu, ne regarde pas rien, écoute pas rien, mange pas, bois pas, dors pas le soir, ôté. Quand ça, il... Et c'est là qu'on voit les gens, ils commencent à cocher les joies de Ramadan, comme les gars là à la prison, demain jour, ils cochent. Donc, dès maintenant, on contrôle, on travaille, tarbiya, des oreilles. Arrêtez. Si on écoute des choses pas bien, on arrête. Si on regarde des choses pas bien, on arrête également. Al-lisan, on contrôle la langue. On commence à parler peu. Si on parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Maintenant, si c'est pour dire quelque chose de méchant, ou ribat bohtan, médisance, calomnie, ou mensonge, ou autre chose, on ferme la bouche. De cette façon, le Ramadan commence, on a déjà fait un tarbiya de le jawarih, de nos membres, je ne vais pas m'étaler plus, on a commencé ce travail et Allah Rabbul Izza voit, il connaît ce qu'il y a de nos cœurs, qu'on a envie de se rapprocher de lui, on a envie de faire des efforts et Allah va nous ouvrir en grand les portes de Kaboul, de Hidayah. Et je vous assure, si on travaille ça dès maintenant, on va passer le plus beau Ramadan de notre vie, Inch'Allah. Et peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être le dernier. Il y a des gens qui étaient là. Moi, je ne connais pas, malheureusement, tous les frères, la communauté comorienne, mahoraise d'ici, mais vous avez tous quelqu'un qui fréquentait la masjid, qui était là l'année dernière, qui n'est plus là. Moi, j'ai des membres de la famille qui sont décédés, des amis qui sont décédés, qui étaient là l'année dernière. J'ai mon cousin qui est décédé, il avait 8 ans de plus que moi, c'est-à-dire il avait, pas, il avait 39 ou 40 ans, il n'avait pas 40 ans, il est décédé il y a un an exactement. Il y a des gens comme ça qui étaient présents et ils pensent qu'ils allaient faire un autre Ramadan, mais ils ne le feront jamais. Parce que Malik Al-Mot a un rendez-vous avec eux. Donc, qu'on considère que c'est peut-être notre dernier Ramadan, mais cette fois-ci, on le prépare de la meilleure des façons. La préparation, ce n'est pas culinaire, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas tout ça. Il faut arrêter. Il faut qu'on prépare spirituellement à l'Layla. Depuis ce soir, notre préparation, elle commence, Inch'Allah. Et Sadaqa, autre a'mal important du Ramadan, donner dans le chemin d'Allah, on commence à donner un petit peu, donner 20 centimes, 50 centimes, essayer d'aider. Si on n'a pas d'argent, on donne à manger, acheter un morceau de pain, donne à la personne qui attend, qui a des difficultés. On essaie de faire ces a'mal et Allah va nous accepter. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de faire des efforts. Déjà que qu'Allah nous donne la possibilité de faire Qiyamul Layl, Tahajjud tous les jours. Et également, ce que j'ai oublié, commencer à s'entraîner, à jeûner. Lundi, jeudi, et 13, 14, 15, basse. Il y a des gens qui, mashallah, jeûnent tout le mois de Rajab, tout le mois de Sha'aban. Je connais des gens qui, deux mois pleins, ils jeûnent. Mashallah, c'est fa, des qualités. On ne va pas arriver jusqu'à là. Après, il y a Kalam, certains disent qu'il ne faut pas faire tout, et ainsi de suite, mis à part ces divergences. Mais lundi, jeudi, ça, on ne doit pas rater. Jeudi, c'est, demain, c'est quoi? Mardi. Le jeudi qui vient, on ne rate pas un lundi ni un jeudi de Rajab de Sha'aban. Et les 13, 14, 15 Rajab. Et 13, 14, 15 Sha'aban, on répond présent au jeûne, Inch'Allah. On fait cette intention qu'Allah nous accepte. Subhanallah, Rabbika, Rabbil Izzati, Amma, Asifun. Salamun ala al-Mursaleen, walhamdulillahi, Rabbil Alamin, Zakum.